Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le maire du Mont d'Or, Eddy Lecourieux. Bonjour.
Bonjour Elisabeth et bonjour à vos auditeurs.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors quand on parle du Mont d'Or, bien sûr, on parle forcément à Saint-Louis. Et nous y reviendrons largement puisque votre commune a la particularité d'être coupée en deux depuis des mois maintenant. Mais à part Saint-Louis, comment va le Mont d'Or et quels ont, d'abord peut-être si on fait un retour en arrière, quels ont été les dégâts subis par votre commune pendant l'épisode insurrectionnel ?
Alors d'abord, Elisabeth, il faut rester sur Saint-Louis, parce que c'est Saint-Louis qui a coupé la commune du Mont d'Or en deux, créant un désastre sur la partie sud de la commune qui a occupé, j'allais dire, tout notre temps ces derniers mois, et qui a causé des troubles immenses à la population. Après, en termes de dégâts, ben, je crois qu'un peu comme toutes les communes, on a brûlé notre mobilier urbain, on a tagué un certain nombre de murs, on a défoncé les jardins, jardinières, enfin, on a à peu près 150 millions de dégâts. Et effectivement, c'est moins grave que ce qui s'est passé à Païta en termes de casse et d'Imbéa et encore moins Nouméa. Voilà. Mais on a eu notre lot de souffrances.
Et comment est-ce que vous expliquez, ça fait 5 mois maintenant pratiquement, comment vous expliquez ce déferlement de violence ? Est-ce que vous avez été surpris par son déclenchement et par son intensité ?
Oui, je crois que tout le monde a été surpris. Enfin, autour de moi, on en a parlé. On essaye d'abord. C'est vrai que si on veut avancer, il faut trouver la cause de ce mal-être, la cause de cette violence. On a du mal à regarder un certain nombre de personnes en face de nous parce que on ne sait pas s'ils ont participé ou pas à ce déferlement de violence. On ne sait pas la CCAT, qu'est-ce que c'est. On ne sait pas qui c'est. À un moment, on a l'impression que c'est un parti politique. À un moment, on a l'impression que ça ne concerne pas les partis politiques. Donc, tant qu'on ne saura pas qui, quoi, comment, on s'est rendu compte que partout où il y avait dans l'agglomération, hein, d'ailleurs, un certain nombre de logements sociaux, on s'est rendu compte que la violence est née d'ici. On s'est rendu compte que la violence est partie de ces marches, enfin, en tous les cas, de cette marche qui a eu lieu un peu avant le 13 mai. Voilà, donc ça, c'est toute la donnée. Et puis aujourd'hui, ben, vous avez des gens qui disent « c'est pas nous », hein, voilà, c'est tout. Alors après, vous aviez eu, après la violence, on a eu aussi ces vols, parce que je pense, moi j'étais présent avec la police, on a tourné et envoyé des magasins se faire piller, voilà, avant d'être brûlés. Donc je pense que on mettra encore un certain temps avant de trouver exactement, j'allais dire, le pourquoi de la chose.
Mais tout de même, 30 ans après les accords de Matignon et de Nouméa, alors ça a beaucoup été mis en cause. Certains ont dit on s'est trompé, on n'a rien fait pendant 30 ans. On a quand même le sentiment d'un immense gâchis, non ?
Oui, moi j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler pour ce pays, à travailler pour la construction de ce pays, dans divers postes, jour et nuit. La politique, c'est quelque chose qui est quand même ingrat, qui est difficile, qui demande énormément de temps. Et on arrive en fin de mandat, là, pour en tous les cas, ce qui concerne celui-ci, on se dit, il faut aller chercher le courage de continuer. Et c'est plus qu'un immense gâchis, parce qu'on se dit, mais quand on croise les gens aujourd'hui, moi je croise des familles, etc., vous me donnez l'occasion de parler 2 minutes de la disparition de Wilfried Maille cette semaine, un chef d'entreprise de la mine, d'homme de très grande qualité. Chef de famille, qui a travaillé toute sa vie également pour ce pays. Et à son enterrement, il y avait des milliers de personnes et on s'est trouvé bien parce qu'on était toute communauté confondue. Et ça, c'est ces moments-là qui vous donnent de l'espoir de dire mais non, c'est pas foutu, il y a bien quelque chose. La Calédonie, c'est bien ça et ça vous redonne le moral, la détente pour repartir.
Le vivre ensemble n'est pas mort, il n'a pas été tué le 13 mai.
Non, mais le vivre ensemble, ça ne sera jamais mort, il y aura des hauts débats. Après, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Moi, je suis chrétien, donc c'est encore plus facile pour moi. Mais non, le vivre ensemble en Calédonie existe, bien sûr.
Alors, quel est le rôle du maire dans une situation comme celle-là, une situation complètement hors norme qu'on a vécue en mai-juin et qui n'est pas encore finie, notamment au Mont d'Or ? Alors, on dit toujours c'est le mandat le plus proche de l'administré, c'est celui qui est le plus au courant de ce qui se passe sur le terrain, mieux que les autres. Vous avez réussi, vous, à maintenir cette cohésion au Mont d'Or? On sait que c'est une commune justement qui est un peu à l'image de la Nouvelle-Calédonie, avec toutes les communautés qui y sont présentes, avec toutes les tensions aussi qui y sont présentes. Vous avez réussi à faire le lien et à maintenir ce lien entre les Mondoriens?
Moi, je dirais que c'est ce mandat de maire, maire d'adjoint, de conseiller municipal, c'est le mandat qui est proche de la vraie vie. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en permanence confronté à des problèmes et il faut trouver des solutions. Moi, j'ai été taxé, on m'a pas assez vu, bien sûr, avec derrière, on est toujours dans la politique, il y a toujours quelqu'un qui vous envoie un petit texte pour dire on n'a pas vu le maire, qu'est-ce que fout le maire, etc. Un maire, dans une situation comme le Mondeur, il ne peut pas ne rien faire, c'est impossible. Vous l'avez dit vous-même, on a dû, dès le début, on était en urgence sanitaire avec le Mondeur Sud. Donc ça a été tout de suite mettre en place les moyens pour évacuer les gens malades. Ça a été que ça. C'est comme ça que les navettes sont arrivées très rapidement avec la province sud. C'était un contrat qu'on avait, c'était une convention qu'on avait depuis longtemps, puisque vous savez que Saint-Louis ferme régulièrement depuis des années. Enfin là, 5 mois, c'est quasi exceptionnel. Et après cette urgence sanitaire, il a fallu mettre en place cette urgence alimentaire et ensuite cette urgence sociale. Et le maire et les adjoints qui étaient présents sur place avec les associations, les citoyens mandoriens, il y a une ou deux nouvelles associations qui se sont créées à l'occasion, la province sud, on a été obligé de tout de suite d'aller, on n'a même pas le temps de penser. Moi j'ai simplement dit à mes adjoints, moi je veux pas qu'on fasse des photos. Vous savez, j'ai été vraiment blessé, j'ai été interpellé quand j'étais plus jeune, voir Kouchner qui avait atterri en Somalie, là, qui était ministre, de, je crois, de Sarko, et puis qui va en Somalie distribuer avec un sac de riz sur l'épaule, voilà, pour faire de l'image. Mais c'est honteux, moi j'ai interdit à la communication de poster ce genre d'image. Je veux dire, les gens, ils savent ce qu'on fait ou ils ne savent pas. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'aller mettre ma tête à la télé. Néanmoins, il a fallu quand même reprendre, parce que le gouvernement avait abandonné à bout d'une semaine le système de barrage. C'est la ville qui a mis en place. Et je souhaite vraiment porter hommage là, à mes deux secrétaires généraux, dont un vient de partir récemment, toujours sur Nouméa, mais, notre directeur des services techniques. Ils ont pris en charge tout ce problème de l'alimentation.
C'était énorme. En plus, on ne s'en rend pas compte, mais le dispositif des navettes maritimes, qui semble simple comme ça, on met un bateau pour traverser. Ça a été compliqué, ça a été lourd, ça a été cher.
Ben oui, vous avez. Aujourd'hui, on est en plus du milliard pour les navettes maritimes. Nous, la ville, on a dû mettre 100 millions pour les barges. En plus, on ne payait qu'une part, c'est-à-dire que les administrés ont continué à payer, ce qui était quand même incroyable. On leur fait payer la traversée d'un bateau, on leur fait payer ce qu'ils n'ont pas tous compris d'ailleurs. Hein. Et moi, j'ai 20 agents qui sont en permanence à aider à décharger, à charger, à canaliser les gens. Aux entrées, aux sorties des barges, des navettes. Quand vous arrivez sur place au Vallon d'Or, mais vous avez l'impression d'arriver à un débarquement. Vous avez des barges qui sont énormes, avec vous avez les bateaux qui vont, qui viennent. C'est plus d'une douzaine de bateaux, matin et soir, qui tournent en permanence. Plus, et je les en remercie, les navettes privées, ce qu'on appelait les taxis 1000, qui vous payaient 1000 francs pour faire un aller-retour jusqu'à Boulari. Mais s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, on ne serait pas arrivé, parce que on ne peut pas dire qu'on a été abandonné, parce que ce n'est pas vrai, on n'a pas été abandonné, je pense que tout le monde a fait ce qu'il a pu. Mais en même temps, on s'est senti vraiment seul, on s'est senti, je ne sais pas comment vous dire, alors c'est vrai qu'il y avait de la sécurité, mais comment on peut imaginer qu'un espace en France soit coupé de la réalité, coupé du monde pendant 5 mois? C'est aujourd'hui, même quand j'en vous parle, je me dis, mais comment on peut avaler ça? Comment on peut tenir?
Il y a peut-être une prise de conscience tardive, parce que tout le territoire était en ébullition et qu'on a mis un moment à s'apercevoir de la situation telle qu'elle était. Parce que Saint-Louis, puisqu'il faut en parler, c'est pas nouveau, ça fait 40 ans que ça dure, Saint-Louis.
Ouais, mais enfin, quand on vous dit, monsieur le maire, on va traiter la tour un peu là, mais Saint-Louis, ça sera en dernier, parce que là, il y a vraiment un gros travail, en dernier, ok? Moi, je me dis, ben, écoutez, on va en dernier, puisqu'on a l'habitude d'être les derniers. Hein. Mais c'est 11 000, 12 000 personnes, de notre côté. C'est 2 à 3 000 personnes de Yaté. Imaginez, vous bloquiez Bouloupari, Bouraï, Saraméa, Farino, La Foy, c'est ce qui représente 12 000 personnes. Vous imaginez? Ben non. Le Mont d'Or, c'est devenu une habitude. Voilà, c'est devenu une habitude. Et là, quand ça ne va pas, ben, qu'est-ce que fait le maire ? Voilà. OK, moi, je prends ma part, c'est moi le maire. Mais je trouve quand même pas admissible voilà, qu'il n'y ait pas plus de réactions. Moi, j'ai écrit au président de la République quand même pour lui dire, écoutez, ça montre bien que cette situation exceptionnelle, 5 mois de coupure de route, il nous faut un ouvrage supplémentaire.
Il ne vous a pas répondu encore ?
Pas encore.
Mais vous ne désespérez pas ?
Non, je relance tout le temps, régulièrement, par les intermédiaires que j'ai à côté de moi, pour lui dire, voilà, il faut parler du Mont-d'Or Sud, il faut parler du Mont-d'Or Sud.
On va revenir sur la situation sécuritaire, mais là-dessus, parce que vous y faites allusion, comment est-ce qu'on sort de cette situation ? Comment on fait pour que cette route ne soit pas toujours bloquée et que la commune ne soit pas coupée en deux ? Il faut, selon vous, aujourd'hui, vous êtes convaincu qu'il faut une route, un viaduc, enfin une route de contournement, comme on dit, ou un viaduc pour permettre aux habitants du Sud de sortir sans passer devant Saint-Louis.
Il y avait dans les projets de 1980 et plus, là, quand il y avait le projet du site du Sud, il y avait une route, une voie rapide, qui passait d'ailleurs, on la voit, qui passe par Magenta, qui passe le long de la Mangrove à Boulary et qui devait aller jusqu'à Progny-Ressources. Voilà, cette route, elle existe sur les plans en tous les cas, donc ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on vient nous faire dire que c'est une route de contournement de Saint-Louis. Non, c'est une route grande vitesse pour développer le Sud, qui, je vous le rappelle, a un potentiel énorme en termes de mines, mais aussi en termes de biodiversité. Je veux dire, le sud calédonien. Alors, on a un peu tendance, quand on sort de Nouméa, à mettre le clignotant à gauche pour aller vers l'aéroport de La Tortuga. Et nous, on est dans le cul-de-sac à droite. Donc, on a tendance un peu à nous oublier. Voilà. Sauf quand il faut prendre le VTT dimanche, puis aller péter un petit coup de VTT là-bas dans les pistes du Sud. Voilà, donc on nous oublie, pas par méchanceté ou par machin, mais j'allais dire par géographie, par description géographique de notre territoire.
Et alors cette route, il faut la faire aujourd'hui ? Vous êtes convaincu que c'est indispensable ?
Bien sûr, j'étais pas convaincu à l'origine parce que j'étais rentré dans ce contexte financier où on nous expliquait que 30 à 60 milliards, d'ailleurs on ne sait toujours pas le coût. Les études viennent à nouveau d'être lancées, des études complémentaires, puisque à l'époque, Calédonie Ensemble, avec son président, avait lancé des études, mais j'ai l'impression qu'elles avaient été plus lancées pour une campagne électorale plutôt qu'un aboutissement. Et aujourd'hui, peut-être je crois que ça, il a fallu ce temps pour que tout le monde comprenne que... Enfin, aujourd'hui, je ne comprends pas que l'État puisse nous envoyer balader, quoi. Je ne comprends pas, parce qu'on nous a bloqué 5 mois. C'est l'échec total.
Oui, mais le temps, on imagine, le temps des études, de la construction, de la réalisation, ça va encore prendre des années pour construire cette route, non ?
Ouais, mais oui, ça va prendre des années, mais en même temps, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on la lance. D'abord, ça sera un grand chantier pour la Calédonie qui est en péril, dont l'économie est en péril, mais en plus... ça sera un espoir pour les gens. Moi, le territoire, il s'est vidé, là, mon territoire. Là, je vais d'un seul coup avoir des gens qui vont partir parce qu'ils sont éloignés des soins, ils vont partir parce que les gamins sont éloignés de l'école, ils vont partir parce que certains ont attrapé peur ou certains voudront continuer à descendre en navette, d'ailleurs.
Oui, ils se sont réorganisés déjà. Il y en a qui sont venus s'installer sur Nouméa pour ne pas avoir tous les jours à faire le trajet. Hein.
Voilà, donc nous, le rôle du conseil municipal, quel qu'il soit, il faudra... redonner cette confiance et je pense qu'une partie de cette confiance pourra revenir, d'abord par l'annonce de travaux de cette route, ensuite par l'aménagement de la route qui traverse Saint-Louis. Je crois que le haut-commissaire a des idées sur le sujet. D'ailleurs, si vous le permettez, je vais en profiter pour le remercier, mais très chaleureusement, lui et les forces de gendarmerie, ainsi que le procureur de la République. Moi, je vais vous dire, ils ont été à nos côtés tout le temps. Voilà, tout le temps, j'ai eu le haut-commissaire. Je sais qu'il a été décrié, parce que chacun voulait qu'il rentre massivement, violemment, etc., etc., dans Saint-Louis. Mais néanmoins, cette Calédonie démocratique, républicaine et démocratique, elle a des lois. Et je suis quand même content de savoir qu'on n'a pas succombé, parce que je crois que les Calédoniens de l'autre bord auraient pu prendre les armes, je pense. Et je les félicite, d'ailleurs, parce que... je crois que tout un chacun avait envie d'en découdre avec simplement pour que ça s'arrête, cette violence, cette peur, etc., etc. Mais le haut-commissaire a été quand même... il a fait ce qu'il a dit. Ça a pris le temps. Et aujourd'hui, il est en train de travailler sur une solution de traverser de Saint-Louis, de choses qui sont et qui pourraient être acceptées par tous.
Encore un mot sur la desserte. Est-ce que pérenniser la desserte maritime, mettre un ferry ou des bateaux plus adaptés, c'est aussi une solution étudiée ou vous l'écartez totalement aujourd'hui ?
Non, nous, c'est un des pratiquement des seuls sujets qu'on a gardé dans notre budget. C'est l'aménagement de... Il était déjà inscrit avant les événements. Donc là, c'est bien parce qu'on pourra le remanier. Donc on lance les études cette année pour l'aménagement de ce bord de mer, de ce fronton de mer à Val-en-d'Or, dans justement, avec la province, on va travailler sur un système d'adaptation pour éventuellement des barges plus tard et pour des navettes maritimes.
Il faut faire le quai, quoi, en fait, pour permettre... que les bateaux puissent vraiment accoster.
Oui, mais y a, c'est plus grand. Il n'y a pas qu'un quai pour faire. Il y a aussi, c'est une marina, c'est aussi un centre pour pouvoir payer les tickets. C'est aussi un restaurant, c'est aussi des parkings.
Des vraies infrastructures.
Oui. Et donc, on est là-dedans.
Pour revenir à Saint-Louis, la traversée de Saint-Louis. Alors, qu'est-ce qui est envisagé pour l'instant depuis le début de la semaine, enfin, le week-end dernier, mais le début a été un peu chaotique. Depuis, il y a donc des forces de l'ordre massivement, des convois qui assurent la sécurité des Mondoriens et de ceux qui veulent traverser cette portion de route. Ça marche bien pour l'instant, vous avez des bons retours, les gens sont rassurés.
Alors écoutez, les premiers jours, ça a été un flop, parce que je pense qu'on est allé un peu trop vite, la route était encore un peu pas complètement déblayée, je pense qu'il n'y avait pas un système de sécurité comme il y a aujourd'hui. Il y avait encore des badauds sur le bord de la route qui s'amusaient encore à gueuler, là, des ânes, à lancer des cailloux. Enfin, ça n'avait pas de sens. Et ça a fait peur aux gens, donc ça a empêché. Je crois que les premiers jours, il y a eu 20 voitures qui sont passées, etc. Donc peut-être ceux qui avaient besoin de déplacer leur véhicule le plus rapidement l'ont fait à ce moment-là. Il y a eu d'ailleurs un carjacking qui a obligé la gendarmerie à refermer cet axe. Mais aujourd'hui, enfin ce matin, moi j'ai eu aussi un certain nombre de policiers qui me donnent des éléments heure par heure et ça se passe très 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 bien. Et donc j'invite les Mandoriens du Sud ou ceux du Nord qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps de profiter. Alors c'est ouvert de 6h à 9h le matin, de 15h à 18h, mais au fur et à mesure que ça ira mieux, la plage horaire va s'élargir.
Vous avez l'impression que c'est quand même une progression, une amélioration, que vous êtes pu couper en deux complètement ?
Écoutez, pour l'instant, ça va. Je crois que les belligérants les plus dangereux ont été arrêtés. Je pense que là, c'est encore, de la violence urbaine. Là, c'est un petit peu... Voilà. Et moi, j'ai demandé aux gendarmes la plus grande fermeté. Je rappelle quand même aux auditeurs que, certes, le problème vient de Saint-Louis. Certes... on sait que les familles ont tendance à soutenir leurs enfants, c'est naturel, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens de Saint-Louis qui ont souffert et qui souffrent. On a eu des morts, parce que les gens ont stressé, comme le reste de Mondor Sud. Ça, c'est pas différent, voilà. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on a entendu les représentants coutumiers dire vous assiégez Saint-Louis, vous faites du mal aux gens de Saint-Louis. Nous, on a quand même rappelé que les gens qui étaient assiégés, c'était ceux du Sud. Voilà. Mais sans rentrer plus dans cette espèce de guerre de chiffres ou de... On a fait du mal aux gens. Voilà. D'un côté, ça a été fait par des gens qui voulaient en découdre. Et puis, de l'autre côté, c'est un service d'ordre qui a été mis en place avec, justement, la possibilité de rentrer et sortir par la route, quand même.
Comment vous avez vécu toute cette période, la période la plus tendue, où, effectivement, il y avait des personnes... considérées comme très violentes, qui étaient recherchées par la gendarmerie, une volonté de médiation qui a abouti finalement à la reddition de 6 d'entre elles quand même. Vous avez participé, vous avez été associé à ces médiations avec les gens de la tribu ?
Alors la première partie, après les émeutes, on a travaillé ensemble. La partie de négociation entre la gendarmerie et puis les coutumiers ou les familles, parce qu'il ne faut pas enlever le rôle de certaines familles qui ont vraiment joué à ce moment-là. Une fois qu'il y a eu des personnes qui sont décédées, qui ont été tuées, à ce moment-là, je pense que chacun a pris conscience que tout ça, ce n'était pas un jeu et qu'il fallait prendre vraiment comment dire, prendre soin des enfants, voilà. Prendre soin des jeunes, qui ne sont pas d'ailleurs tous jeunes, hein. Mais en tous les cas, cette prise de conscience, elle a permis d'arrêter voilà, une dizaine de personnes qui se sont rendues à la gendarmerie, qui a fait qu'aujourd'hui, on a ce calme.
Vous avez été marqué, on n'a pas encore parlé, par l'incendie de la mission de Saint-Louis. C'est un point important, c'était un point important de la commune du Mont-d'Or.
Ouais, je vais... On avait réussi à faire bienvenue à la fête, bah Saint-Louis, pardon, on avait réussi à faire la fête du patrimoine, plus de 3000 personnes. On avait, autour de l'église, on a fait des choses extraordinaires ces dernières cinq années. Et les gens oublient que c'était ça, l'argent qui avait été donné par l'État pour refaire un peu le lien. Donc, oui, tout ça, ça a fonctionné. Mais alors, je vais vous choquer, Elisabeth, hein, parce que vous savez qu'on est tous les deux chrétiens pratiquants. Mais moi, l'église est tombée, ben je me suis, je veux dire, à part perdre du patrimoine, je me suis dit, eh ben ce jour-là, Dieu n'était pas là. Pourquoi ? Ben il faut se poser la question. Voilà. Moi, je pense que on méritait pas. Comme des fois, on mérite pas la Nouvelle-Calédonie. Hein. On a une terre exceptionnelle. Ben à force de jouer à se faire du mal, eh ben écoutez, un jour, on aura peut-être le pire. Je ne sais pas si c'était là le pire. Si on comprend qu'il faut changer, mais en tous les cas, j'ai dit à au grand chef, hein, j'ai dit au grand chef Ouamitan, j'ai dit, mais cette église, elle protégeait Saint-Louis aussi. Elle protégeait, elle a été mise là, Saint-Louis a été construit, puisque ça a été construit autour de l'église. Et voilà, moi, ce symbole est tombé. Et bien, après, à chacun de... Il y a des mamies qui ont essayé d'aller sauver, en essayant d'aller voir les jeunes qui étaient là-bas. Mais les mamies, quoi. Voilà, c'est personne d'autre. Qui ont été voir. Alors, bien sûr, tout le monde avait peur de se faire tirer dessus, se faire tuer, etc. OK. Je veux dire, les gens, ils ne sont pas arrivés armés comme ça. Il a bien fallu les monter. Cette violence, elle n'est pas arrivée comme ça. On sait que le CCAT était aussi à Saint-Louis. On sait que c'est parti de là, etc., etc. Donc, il y a des coupables, quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas les jeunes tout seuls. Moi, je veux bien essayer de tout comprendre. Mais... Et c'est pour ça que cette église tombée, eh ben, pour revenir à votre question, ben, écoutez, voilà, c'est tombé, et puis peut-être qu'il faudra reconstruire quelque chose.
On parle de Saint-Louis, effectivement, vous le disiez, comme centre névralgique de la CCAT. Saint-Louis, c'est un problème qui dure depuis 40 ans. Vous envisagez aujourd'hui une route de contournement, une desserte maritime. Ça veut dire que le problème, entre guillemets, de Saint-Louis, on ne va jamais arriver à le régler. Ça va toujours rester un point de fixation, de violence, de... Alors qu'on le sait, on vous l'a reproché aussi à l'époque, vous le savez, il y a de l'argent qui a été mis dans la tribu pour essayer justement de faire des aménagements sociaux, de faire vivre les associations, de former les jeunes.
Et comme quoi, l'argent ne règle pas tout. Hein, c'est un problème qui est, on l'a déjà dit, la tribu de Saint-Louis, c'est une tribu complexe, mais en tous les cas, ce n'est pas admissible. Voilà, je veux dire, la gendarmerie, là, a fait son travail. Eh ben, on voit que quand on fait notre travail, on a laissé 40 ans aussi cette situation dégénérer. Il faut arrêter un gars qui jette un caillou, il faut le condamner. Le feu, on met le feu, on marche sur la route, on insulte les gens, enfin, ça ne doit pas exister. On tolère, mais il n'y a pas à tolérer ce genre d'acte, ce n'est pas toléré ailleurs. On ne va pas, nous, traverser certains endroits tabous en Calédonie où on crie « sale ceci » ou « sale ça », ça n'existe pas, ça. Donc, on doit faire appliquer la loi à Saint-Louis. Et je crois que, pour la première fois, le haut-commissaire a fait appliquer la loi. Le procureur de la République a fait appliquer la loi. Il a prévenu, attention, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, bien sûr, quand on bouscule les jeunes et on leur dit « allez-y, allez-y, allez-y », eh bien, voilà, il y a une forme de... Et si vous voulez, depuis toujours, à Saint-Louis, on laisse faire, voilà. Et nous, derrière, on court à chaque fois pour essayer de trouver la solution. Donc, voilà, il faut qu'on passe à une autre forme de résolution de ce temps. Parce que les gens de Saint-Louis n'ont pas envie non plus de vivre comme ça.
Et justement, la gravité de la crise qu'on vient de vivre, qui n'est pas finie d'ailleurs, vous pensez que ça peut mettre un coup d'arrêt, que ça peut être un signal qui fait que la situation va peut-être être réglée enfin, une bonne fois pour toutes ?
Écoutez, hein, aujourd'hui, on parle de Saint-Louis, 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 parce que c'est le Mont-d'Or, bien évidemment. Hein, vous avez des endroits, Vallée du Tir, où tous les soirs, il y a un truc qui brûle. Wailou, ils n'ont pas attrapé la moitié des mecs qui ont commis des exactions. Enfin, je veux dire, il y a des endroits aujourd'hui où il y a des vrais coupables. Alors moi, on me garantit, hein, que la justice va passer. Je crois que la justice française est lente, mais elle passera. Voilà, je crois fermement dans la justice de mon pays, parce que c'est pas admissible. On peut pas aller faire du mal aux gens, on peut pas aller brûler des biens, on peut pas aller bousculer, frapper, on peut pas faire ça dans une société, mais quelle qu'elle soit, que ce soit Kanaki indépendante ou que ce soit la France, on peut pas faire ça. Et je crois qu'il faut que les... Je crois que ça a été un peu un barreau d'honneur, là. Je crois que ces derniers temps, les gens ont voulu montrer que c'était le dernier... Il fallait, là, le dernier round. Il fallait secouer la Calédonie, il fallait demander... C'était une prise d'État, là, une prise... Pardon, une...
Un coup d'État,
une prise de possession par les armes. Ben voilà, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut revenir à quelque chose de plus démocratique, et puis il faut revenir autour de la table, et puis, mais on ne peut pas considérer que c'est comme ça, c'est normal, un pays... Moi, je ne sais pas ce qu'on va débattre à l'ONU, hein, quand on va à l'ONU, hein, puis on va, comment on explique ça, là ? Je ne vois pas comment on peut expliquer ça. Après qu'on ait eu 30 années avec des dispositifs qui ont été mis en place, le partage de pouvoir, de responsabilité... Pourquoi on a fait tout ça si au bout de 30 ans, on dit on prend les armes et puis on casse tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que les personnes n'est prêt à accepter ça.
Alors, on réagit à ces violences, vous le savez, un peu partout en Calédonie, mais notamment sur Nouméa, dans les communes de l'agglomération. Les gens se sont pris en charge eux-mêmes. Il y a eu ce qu'on a appelé les barrages des voisins vigilants qui ont protégé leur quartier et leur maison. Depuis quelques semaines, quelques jours, on leur a demandé d'enlever leur dispositif parce que les forces de l'ordre étaient là pour assurer leur sécurité. On sait qu'à Dabea, notamment, les gens s'en plaignent. Au Mont-d'Or, est-ce que vous avez encore des barrages de voisins vigilants ou...
Madame, non, moi je suis heureux que vous abordiez ce sujet-là. Des gens qui ont protégé leurs biens. Je suis heureux. Parce qu'effectivement, moi au Mont-d'Or, avec la formation de ma commune tout en long, là, il y a eu des voisins vigilants qui se sont tout le long de la route. Ils se sont engagés. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'école qui a brûlé, je n'ai pas de bâtiment public plus que ça. Parce que c'est les voisins qui ont pu sauver tout ce bien, et je les en remercie. Aujourd'hui, il reste quelques... alors, ce n'est pas des barrages, parce que moi, ils sont un peu sur le côté de la route, il en reste 4 ou 5, les gendarmes voudraient les enlever. Moi, les voisins vigilants m'appellent pour poser la question. Moi, j'ai demandé aux gendarmes de ne pas les enlever tout de suite. Les voisins les enlèveront. Voilà, ça arrivera là dans pas longtemps. Pour l'instant, il y a encore un couvre-feu. Pour l'instant, il y a encore Saint-Louis qui coupe la commune en deux. Pour l'instant, il y a encore des voitures qui ont brûlé au centre-ville ou encore des cailloux qui sont jetés. Donc pour l'instant, si les voisins ont envie de conserver leur petite cabane avec la mise en place de quelques personnes, ben moi ça me gêne pas. En tous les cas, je rappelle que ce sont des routes communales. Donc après, l'État peut me condamner, moi, s'il veut, mais pour l'instant, je ne souhaite pas qu'on le fasse manu militari. Je crois que d'ailleurs, les gendarmes ne le font pas, ils demandent, mais moi, je ne souhaite pas qu'on les enlève tout de suite, si les riverains ne veulent pas les enlever. Voilà.
Le temps passe, j'ai encore plein de questions que je voudrais voir avec vous. Vous disiez, on disait par rapport à Saint-Louis, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent, c'est important quand même. Où vous en êtes sur un plan financier? On sait que toutes les communes vont souffrir. Vous, au Mont-d'Or, donc vous disiez les barges, ça vous a coûté très cher, et puis cette situation insurrectionnelle coûte cher par définition, et vous allez avoir moins d'argent de la part du gouvernement. Comment est-ce que vous en sortez ?
Alors, déjà pour les barges, on a été aidés par l'État, donc je les en remercie. Nous, on a perdu sur ce budget 800 millions déjà, sur un budget d'à peu près 6 milliards. Ça va être encore plus l'année prochaine, 25 emplois pas renouvelés. 21 peut-être l'année prochaine. Aujourd'hui, on sait, jusqu'au 31 décembre, on peut payer les salaires, on peut payer nos dettes, nos charges, mais après, on ne sait pas. Personne ne sait en Calédonie. On parle déjà de diminution de salaire pour les fonctionnaires, on parle de diminution du point, on parle de tout un tas de choses. Donc si on en parle, c'est qu'on sent que voilà, la faillite n'est pas loin. On n'a pas l'État... Bon, voilà, l'État est là, mais pour aider à reconstruire les écoles ou les bâtiments qui auront été détruits, ben, écoutez, tant mieux, parce que je pense qu'on ne peut pas, certains, la ville de Païta, par exemple, a besoin de son école ou de deux écoles, il faut l'aider, mais pas à 80 ou à 70%, il n'y a pas un rond, donc c'est soit 100%, soit rien du tout, une partie des assurances, mais là c'est complexe, on est en faillite, quoi, pour l'instant, quasi, même si... On a réussi à avoir encore une ligne de trésorerie, une avance de 800 millions. Si on a réussi à avoir un emprunt de 200 millions, mais là, on sait qu'on est, on est au bout du bout, quoi. Il y aura pas. Nous aussi, l'année prochaine, on sera certainement obligé de taper dans la masse salariale.
Effondrement de l'économie, effondrement de la filière nickel, notamment. Premier Resources, c'est pas directement sur le Mondor, mais vous en bénéficiez. Elle est à l'arrêt. Alors, on parle d'un repreneur éventuel, d'une société sud-africaine qui pourrait être intéressée. Vous les avez rencontrés, vous y croyez? Vous pensez qu'on va pouvoir relancer l'usine du Sud?
Alors déjà, l'usine est sur le Mondor. Voilà, le gisement est sur Yaté. Ça, vous avez... Donc, c'est bien chez nous. Et depuis 30 ans, je peux vous dire... Tous les problèmes qu'il y a sur l'usine, c'est nous qui nous les coltinons. Donc, je peux vous dire, on a eu notre...
L'usup, vous avez déjà donné.
Voilà, on a eu notre impôt prôni, pas toujours dans le bon sens. On a reçu... Ça semble une offre sérieuse. Nous, la ville, on les a reçus. On leur a expliqué, là, justement, la manière qu'on avait de travailler depuis de très nombreuses années avec différents dirigeants de cette usine qui était quand même aujourd'hui en capacité de fournir un matériau de haute qualité avec un procédé qui fonctionnait. Donc, et puis justement, on a rappelé, comme dirait chez nous, hein, sans faire de lèche, j'ai simplement dit la réalité. Nous, on est très très fiers de cette usine, très fiers des personnes qui travaillent, un certain nombre de Mondoriens. Et c'est dommage parce qu'on était tout près de l'exploit. C'est une usine qui peut fonctionner très rapidement.
Pour ça, il faut que la RP1 soit libérée ou que la route de contournement, la route à grande vitesse, soit effectuée.
Mais ça, c'est devenu maintenant presque une réalité. J'ai juste mis en place le nouveau centre d'incendie de secours là, dont on va faire les études. J'ai mis exactement à la sortie de la route du bord de mer... Et donc, quand elle passera, elle arrivera juste chez les pompiers. Donc, ils pourront... J'ai dit au commissaire que c'était un signe. Voilà.
Un mot de politique. On a appris... le Premier ministre a annoncé le report des élections provinciales. Elles devaient avoir lieu avant le 15 décembre. Elles sont reportées à fin 2025. Ouais. Vous y étiez favorable. La plupart des maires avaient l'air de dire qu'on n'était pas en capacité de les organiser.
Alors, je suis en même temps favorable et pas trop parce que... Mais on a dit oui, parce que faire des élections en ce moment, c'est complètement incongru. On n'arrive pas à se parler. Alors, vous allez voir, les élections, on a des élus qui n'arrivent pas à aller dans certaines parties du territoire. C'est compliqué, la sécurité n'est pas appliquée partout. Donc non, les élections territoriales, c'est pas à l'ordre du jour. Mais en même temps, on a une majorité aujourd'hui. On a des élus qui ont fait leur temps, là, qui ont fait leurs 5 ans. Et peut-être que justement, pour reconstruire ce pays, on a besoin d'une nouvelle énergie, on a besoin d'une nouvelle trajectoire, on a besoin justement de cette campagne électorale pour faire émerger des idées.
On a besoin d'une modification du corps électoral également pour ces provinciales. Est-ce que ce n'est pas un casse-tête aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut modifier le corps électoral?
Moi, je pense qu'il y a la loi, voilà, qui dit qu'on ne peut pas toujours bloquer ce corps électoral. Mais je pense qu'on peut s'entendre. Moi, on a regardé, nous, au Rassemblement, ce sujet... avec Alcide Panga, hein, que je salue et qui fait un travail remarquable chez nous. Et on pense qu'on peut accepter un corps électoral qui reviendrait à la normale ou à peu près à la normale sans que ça vienne bousculer les équilibres.
Un dossier chaud à suivre. Beaucoup de visites. Le ministre des Outre-mer qui arrive la semaine prochaine, il sera là dans 8 jours. On annonce également la mission menée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Le président de la République parle de discussions en novembre à Paris. Toutes ces rencontres, vous souhaitez que les maires y soient associés pleinement, les maires de l'agglomération au moins, vous avez l'intention de rencontrer tous ces gens?
Alors on est déjà invité pour mercredi prochain pour rencontrer le ministre des Outre-mer. Bien évidemment, hein, on parlera de la situation des communes qui est gravissime et pour l'instant pour lesquelles on n'a pas obtenu... d'argent supplémentaire et voir un petit peu si le ministre a l'intention de faire quelque chose ou pas d'ailleurs.
Et les discussions à Paris, vous pensez que les maires aussi vont y être invités?
Alors on entend dire. Mais alors si j'étais invité, c'est sûr, je fais un petit coucou au président de la République pour lui parler de
qui répondent à votre lettre.
Voilà, la route du Sud.
Les discussions sur l'avenir institutionnel, vous pensez qu'on va y arriver? Un accord global est possible? Une solution est possible?
Moi, je suis d'un optimisme prudent, comme disait Yves Magnier, et je pense qu'on peut arriver à un accord. Voilà, je pense que si les gens font un retour sur ce qui s'est passé, on a échappé au pire. Je pense que on peut aboutir à quelque chose et reprendre une vie qu'on mérite dans ce territoire.
La Calédonie va rebondir, elle va s'en sortir après l'épisode qu'on vient de vivre.
C'est-à-dire que c'est pas la Calédonie toute seule, hein, c'est les Calédoniens qui vont rebondir. Donc moi je sais qu'autour de moi les gens sont capables.
Eddy Le Courrieux, maire du Mont d'Or, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci de votre sincérité dans vos réponses.
Avec plaisir.